Bonjour Philippe Juvin.
Bonjour.
Et nous parlerons de l'Ukraine dans quelques instants, puisque vous y avez passé une quinzaine de jours sur place en tant que médecin d'abord. Mais la politique, pour commencer, puisque depuis maintenant 48 heures, il y a un nouveau chef de gouvernement en France. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron a fait le meilleur choix en nommant Elisabeth Borne ?
Alors je ne connais pas du tout Madame Borne, donc je ne ferai pas de commentaires. Je lui souhaite bon vent. Je connais en revanche son directeur de cabinet, Aurélien Rousseau, qui était le patron de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, et à la fois comme maire d'une commune des Hauts-de-Seine et comme chef d'un service d'urgence d'un hôpital parisien, j'ai pratiqué M. Rousseau, qui est un homme vraiment bien, qui dans cette crise démente, à l'époque, a été un de ceux qui était le plus agile, qui savait adapter les décisions politiques à des réalités qui étaient fluctuantes. Donc je garde le souvenir d'un serviteur de l'État efficace. Donc ouais. C'est un bon point pour Madame Borne.
Depuis la nomination d'Elisabeth Borne, on a beaucoup entendu Edith Cresson, Premier ministre de François Mitterrand pendant un an, entre 1990 et 1991, qui s'énerve un peu que l'on s'intéresse autant au fait que le nouveau chef du gouvernement soit une femme. Et elle dit, il n'y a qu'en France que ça se passe comme ça, et c'est parce que la classe politique n'a pas changé, elle est formidablement misogyne. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ?
Que ça soit difficile de faire de la politique, c'est un fait, et que ça soit encore plus difficile quand on est une femme, je pense que c'est une réalité. Maintenant, faut-il saluer le fait qu'il y ait une femme à Matignon ? Oui, moi plutôt, je pense. D'ailleurs, j'avais une candidate à l'élection présidentielle qui était une femme, Valérie Pécresse, et je trouvais que c'était aussi une bonne idée.
Mais est-ce qu'il fallait en faire un préalable, puisqu'il semble que c'était le cas ?
Un préalable, non, parce que la France, on ne décide pas du gouvernement de la France en fonction du genre ou du sexe de la personne qui le gouverne, mais c'est un symbole, et c'est un beau symbole qu'il faut saluer. Madame Cresson, c'est un peu surprenant qu'elle dise ça, parce que j'imagine qu'au moment où elle a été nommée, elle avait aussi conscience qu'elle était nommée par le président Mitterrand, peut-être aussi parce qu'elle avait été une femme.
Mais elle raconte d'ailleurs que François Mitterrand lui a dit explicitement, parce qu'elle a refusé dans un premier temps.
C'est QFD.
Elle lui a dit pourquoi ? Il lui a dit « je veux nommer une femme Premier ministre »
C'est QFD.
Avant la fin de mon mandat. Elisabeth Borne est donc chef du gouvernement, moins d'un mois avant les législatives, où elle-même est candidate dans le Calvados. Est-ce que vous pensez que c'est un risque politique bien calculé ?
Ah mais c'est pas ça, c'est qu'il est de tradition, je crois, que les ministres prennent un risque électoral personnel. C'est facile de se faire nommer quand on ne prend aucun risque. Et donc, Madame Borne est candidate.
Qui pour l'instant n'a jamais été élue, d'ailleurs.
Oui, mais ça fait partie du jeu. Je pense que c'est bien que le Premier ministre soit élu. Quelles que soient les qualités humaines des Premiers ministres qu'on a pu avoir qui n'étaient pas élus, il y en a eu quelques-uns. Il y a eu Raymond Barre, il y a eu Villepin, il y a eu M. Castex. Il y en a eu plusieurs qui n'ont jamais été élus. Ah, c'est quand même un plus en République, ce n'est pas scandaleux que de s'être frotté au suffrage universel.
Madame Borne va devoir s'atteler à une réforme assez explosive, celle des retraites. Elle passe pour une négociatrice assez raide, c'est ce que disent les responsables syndicaux qui ont eu affaire à elle. Est-ce que sa nomination n'est pas un mauvais signal envoyé aux syndicats de travailleurs,
Je ne connais pas la psychologie de Madame Borne. Ce que je sais, c'est que le pays est extrêmement fractionné. Vous avez quand même 70% des gens qui ont voté soit pour un parti qui remet en cause le système, soit sont abstenus. Il y a une grande colère dans le pays. C'est vrai qu'au-delà des programmes, la mission première du Premier ministre va être de rendre le pays plus paisible qu'il n'est aujourd'hui. Donc la qualité humaine des personnes qui vont être en charge des affaires de l'État, leur capacité à recimenter les Français qui sont très divisés et très, 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 très furieux contre l'état des choses est fondamentale. Donc c'est probablement la première qualité d'un homme politique ou d'une femme politique aujourd'hui, c'est apaiser le corps social.
Est-ce que vous aimeriez, Philippe Juvin, être ministre de la Santé, par exemple, dans le gouvernement d'Elisabeth Borne ?
Mais moi, j'ai proposé depuis maintenant plusieurs semaines que cette idée qui a cours d'ailleurs dans tous les démocraties du Nord, et particulièrement en Allemagne, que les partis de gouvernement acceptent de passer un contrat de gouvernement, pas du débauchage individuel. Ça, c'est une erreur, je crois. Mais signent un document dans lequel ils s'engagent à faire un certain nombre de choses ensemble. Je l'ai soutenu, y compris dans ma famille politique, avec un succès relatif, puisque je suis très minoritaire dans ma famille politique. Oui. Mais je pense que les partis de gouvernement ont vocation à travailler ensemble.
Alors, en effet, votre parti n'est pas sur cette ligne, puisque le 26 avril dernier, les Républicains ont adopté un texte, une motion qui réaffirme l'indépendance du parti vis-à-vis de la majorité gouvernementale. gouvernementale, un texte que vous n'avez pas signé. Je vous pose la question autrement. Vous dites que dans l'idéal, c'est ce qu'il faudrait qu'il se produise. Est-ce que vous pourriez accepter si on vous le proposait ?
Encore une fois, je crois que...
Ou est-ce que vous vous dites, je dois être loyal à mon parti ?
Non, non, mais la question n'est pas celle-ci. Je pense que la question, c'est celle de la stabilité du corps social qui est fractionné. Le corps social explose de partout, les gens sont très en colère, et c'est pour ça que les partis de gouvernement doivent travailler ensemble. Mais encore une fois, ça ne doit pas être, et c'est ça l'erreur.
Pas de débauchage individuel.
C'est pas une question de casting individuel. C'est la question de... Est-ce qu'on est capable de se mettre autour d'une table les gens raisonnables ?
Mais là, ça n'est pas le cas.
Raisonnables. Non, et quand vous dites mon parti est contre, d'abord, c'est son droit, moi je reconnais, et il y a aussi des éléments qui plaident en faveur de la décision qu'a prise mon parti, en particulier la nécessité d'avoir une opposition constructive pour éviter que la seule opposition soit populiste. Mais mon parti ne souhaite pas, mais j'ai cru comprendre que en face, dans la majorité, on plaidait plutôt pour un parti unique. Mais si donc il n'y a pas de volonté, si vous voulez, manifestement, non, mais il n'y a pas de volonté des acteurs politiques de jouer ce jeu. Je trouve que c'est dommage. Vous savez, quand Chirac est réélu, son deuxième mandat, dans les conditions qu'on sait face à Jean-Marie Le Pen, on a regretté quelques années plus tard. On l'a regretté, qu'il n'ait pas fait cette union sacrée. Bah, peut-être
si
qu'on est en train
proposé,
de rater le coup.
C'est oui ou non si on
non, non,
propose.
Mais je ne veux pas vous répondre pourquoi. Parce que ce n'est pas une question de casting personnel, vous comprenez. C'est une question d'exercice collectif du pouvoir, qui malheureusement, eh bien, c'est pas à goût du jour en France. Peut-être un jour, ça le sera.
Et vous venez de passer, Philippe Juvin, récemment, deux semaines en Ukraine. Donc, c'est d'abord en tant que médecin que vous y êtes rendu. Qu'est-ce que vous avez vu sur place ? Quels enseignements avez-vous tiré de ce déplacement ?
D'abord, j'y suis allé pour soigner, parce que là-bas, il y a beaucoup de blessés, psychologiques et physiques. Et pour faire de l'enseignement, j'ai fait de l'enseignement de soldats sur le front, ce qu'on appelle le sauvetage au combat. Mmh. Au combat, les combattants meurent en fait d'hémorragie dans les premières minutes après avoir été blessé. Donc il faut savoir faire des garrots, des choses comme ça. Donc j'ai appris ça. J'ai appris la même chose à des civils qui se préparent à la guerre. J'ai observé un peuple qui tout entier se prépare à la guerre, tout entier. De 18 à 60 ans, dans toutes les communes où vous passez, eh bien vous apercevez que les gens se préparent. Et donc si Vladimir Poutine gagnait militairement cette guerre, il lui faudrait probablement 1 ou 2 millions de personnes pour occuper le terrain. Deuxièmement, j'ai vu que la guerre, c'était une guerre extrêmement sale. Et toutes les guerres ne sont pas criminelles. Celle-ci est une guerre criminelle. C'est-à-dire que les Russes attaquent non seulement des objectifs militaires, c'est la guerre, mais surtout des objectifs civils, sans aucun intérêt militaire. Donc c'est une guerre criminelle que font les Russes. Puis j'ai vu une troisième chose. J'ai vu ce que nous voyons déjà d'ici, mais c'est très fort là-bas. J'ai vu que la propagande des Russes était une propagande à la soviétique. C'est-à-dire que c'est un monde à deux pôles. Les soviétiques disaient il y a les fascistes et les antifascistes. Et les Russes nazifient à tout craint. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas avec eux, vous êtes nazis. Les Ukrainiens sont nazis. Le gouvernement ukrainien est nazi. Les Européens sont nazis. Tout le monde est nazi. Et donc, ne soyons pas naïfs. Les Russes sont en train de nous refaire le coup de l'Union soviétique.
Merci Philippe Juvin. Bonne journée.